chronique Auto 360 avec Dan Boudreau.
De retour du salon de l'auto de Détroit. Salut, Daniel Boudreau.
Hey, bon matin.
Je sais pas si tu as remarqué, mais on dirait que ton identifiant sonore sonne plus comme un chantier que l'auto. Mais parlant de chantier, là, tu vas m'expliquer une chose, Daniel.
Oui.
À l'heure où on a l'impression que la grosse mode, c'est les voitures hybrides, les voitures électriques, les hybrides branchables, les voitures qui consomment peu, tu reviens du salon de l'auto de Détroit, l'un des plus gros au monde, et ce qu'on propose, c'est des camions. Qui consomme?
C'est les camions. 2018-2019, la guerre est ouverte dans les trois grands pour ce qui est des camions pleine grandeur. Puis on va fesser très fort parce que on a présenté de tout nouveaux produits. Et c'est vrai que le langage, quand tu écoutes le discours des manufacturiers, tu dis « Ah, écoute, on veut vraiment aller de l'avant avec la voiture électrique, la voiture branchable, même les nouvelles technologies, hein, Toyota, qu'est-ce qu'ils ont annoncé avec la Mirai ici, on parle de voitures à hydrogène, puis on va les avoir ici à Québec. Donc le discours est vraiment bon, on s'en va dans la bonne direction pour ce qui est du discours, mais quand tu arrives sur le plancher, les voitures qui dévoilent, ils lèvent le drap et c'est un camion, un V8.
En tout cas, du moins sur le plancher des concessionnaires, des producteurs, là, puis des exposants, eux autres, ils sont pas trop...
Non, il n'y a pas vraiment y a pas vraiment encore de voitures. Tu sais, c'est pas encore la majorité. On en sort une de temps en temps, on sort des véhicules concept. Tantôt, je vais t'en parler. Là. Je vais faire le tour un peu de qu'est-ce qui a été lancé.
Mais, d'ailleurs, pendant qu'on se parle de ça, vous pouvez nous appeler au 670-9330 si vous avez des questions par rapport aux voitures à poser à Daniel. Il est tout oui, il va y répondre. Réservez votre circuit au 670-9330.
Les voitures électriques, les voitures hybrides, les voitures rechargeables sont encore en des prototypes ou des concepts. Donc, il n'y a pas vraiment de grosses nouveautés qui ont été lancées. Et la plupart des voitures, c'est de la puissance. C'est de la puissance, c'est beaucoup de puissance. Je parlais des camions. Si on y va tout de suite avec le camion, le nouveau Silverado Sierra chez GM, tout nouveau camion de A à Z. Donc, on a parti d'une feuille blanche. Et moi, en tout cas, là, j'aimais pas vraiment la critique que je faisais du côté du camion chez GM, c'était le style. Là, on est rendu avec un style beaucoup plus agressif. Du côté de chez Chrysler, le Ram, on sait, il est très agressif. On l'a un peu adouci. Puis du côté de chez GM, on a placé ça un peu plus agressif. On s'est tellement fait dire qu'il était pas assez agressif que là, il y a une grosse calandre en avant. On a joué avec les lumières, on l'a monté, on a fait une version Trail Boss qui fait en sorte que là, tu peux aller loin dans leur route avec ton camion. Donc, on a changé le camion de A à Z. On a sauvé du poids aussi, 400 quelques livres. Donc, il va être encore plus économique. Nouvelle génération de 5,3 litres. Nouvelle génération de 6,2. Un moteur diesel 3 litres aussi qui va arriver un petit peu plus tard au cours de l'année. Alors, transformation totale et le Trail Boss. C'est sûr que je ne parlerai pas de tous les détails qu'il y a au niveau du véhicule, mais le Trail Boss, l'échappement est dans le pare-choc arrière, intégré dans le pare-choc arrière. Alors ça, j'ai trouvé ça vraiment très bien fait de la part de GM. Évidemment, c'est un véhicule qui est plus rigide, qui va être mieux insonorisé et plus économique parce qu'on a travaillé aussi sur l'aérodynamisme. Alors, nouveau camion, il va y avoir plusieurs versions de ce camion-là. Autre camion également, ben, il faut aller du côté de chez Ram. Donc, on travaille fort, un et l'autre. Et là aussi, on a parti d'une feuille blanche, donc tout nouveau châssis. Et ça, ça va faire du bien au Ram parce que, évidemment, c'était aussi une des critiques. Donc, véhicule beaucoup plus rigide. On parle que le châssis est 98% plus rigide, donc 98% fait d'acier à haute intensité, ultra haute intensité. Et le châssis est même en instance de brevet pour ce qui est de sa portion avant parce que lorsque on sait un camion et une voiture, lorsqu'il y a un impact, ben, la voiture a pas beaucoup de chance, évidemment. Donc là, on a travaillé. Les longerons avant sont évasés. Et ils s'en vont pratiquement en avant de la roue. Au lieu d'aller tout droit, ils vont s'en aller là où la roue. Donc, la zone de déformation est accentuée et ça va être beaucoup plus sécuritaire. Alors, on a sauvé aussi du poids. Je m'attendais à voir peut-être arriver de l'aluminium du côté autant de GM que de Chrysler, mais on utilise l'aluminium pour certaines parties, mais c'est pas tout en aluminium comme le F-150.
On va aller faire un tour au téléphone, Daniel, si tu veux bien. Il y a Jean-Marc qui est au 670-9330. Bonjour, Jean-Marc.
Bonjour.
Votre question pour Daniel?
J'appelle pour mon père. C'est parce que lui, il a un CR-V 2017.
Oui.
Et il ne vient pas avoir de chaleur dans l'auto. Il est allé sur le concessionnaire et pour se faire changer le thermostat, tout simplement. Mais ça continue de faire la même chose, c'est-à-dire qu'il ne prend pas sa chaleur. Il faut qu'il roule une demi-heure de temps avant que la chaleur commence à apparaître. Alors, on aurait eu vous dire que... c'est un problème qu'ils ont sur le CRV 2017. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu parler?
Bien, dans les petites motorisations, évidemment, ça prend plus de temps avant d'avoir de la chaleur. C'est pas seulement le CRV, c'est plusieurs modèles munis des petits 4 cylindres en aluminium. C'est plus long avant d'avoir de la chaleur. Maintenant, une demi-heure, là, c'est trop long. Moi, je l'ai eu en essai, le CRV, ça n'a pas été aussi long avant d'avoir de la chaleur. Donc, ça prenait quand même du temps. Je commence à être habitué là, de prendre un peu de temps avec les petites motorisations avant d'avoir de la chaleur à l'intérieur de l'habitacle. Sauf que là, ce que vous me parlez, c'est ça semble être anormal. Oui, il y a le thermostat, mais il y a peut-être aussi l'antigel, parce que dans plusieurs cas, l'antigel arrive et il n'est pas proportionné correctement. Donc, vous devriez aller voir si le pH de l'antigel est correct. Et c'est pas tous les concessionnaires qui pensent à le faire. Donc ça, c'est peut-être une avenue que vous devriez travailler parce que c'est pas normal que ce soit aussi long que ça pour un CRV. Et si votre concessionnaire n'est pas capable de faire le travail, on change de concessionnaire.
Merci beaucoup.
Merci Jean-Marc. Merci.
Bonne journée.
Stéphane est au bout du fil. Il y a une question pour toi, Daniel. Bonjour, oui. Stéphane.
Oui, bonjour. Je voulais savoir pour les RAM, les nouveaux modèles qui vont sortir, oui. Est-ce qu'il y a des... J'ai parlé tantôt, vous avez parlé du châssis, mais motorisation, puis le reste, il y a eu des gros changements ou c'est...
C'est un tout nouveau camion. Et c'est vrai que j'ai pas eu le temps de faire le tour. Deuxième génération d'un moteur 3.6 qui a été annoncé. Le 5.7 reste à peu près pareil, sauf que la grosse nouveauté au niveau des motorisations, là, on parle d'un système e-torque qui va être disponible sur le camion. Donc, le système e-torque, c'est un alternateur régénérateur, en fait, qui récupère aussi l'énergie au freinage, qui est monté sur la courroie. Et ça, ça fait en sorte que c'est relié à un système de 42 volts. Et là, on peut aller chercher du couple additionnel. Sur le 6 cylindres, on parle de 90 livres pied-couple. Sur le 5.7, 130 livres de pied-couple. Donc ça, ça veut dire encore plus de performance, de l'économie. Et le véhicule va pouvoir aussi avoir le système arrêt-démarrage automatique et va pouvoir avoir prolongation des accessoires avec ce système-là. Donc, ils ont vraiment fait... je pense que ça va être intéressant de ce côté-là. Et on a amélioré les capacités de charge. On a amélioré le système de suspension à air. C'est la deuxième génération qui va y avoir au niveau de le système de suspension à air. La boîte également est plus profonde. La boîte est plus malléable aussi pour les gens qui aiment travailler. Et on nous dit, à l'intérieur, c'est superbe. Ils ont vraiment fait un intérieur de toute beauté. On peut même avoir un écran de 12 pouces, là, une espèce de grand iPad comme console centrale qu'on peut séparer en deux. Et on nous dit que l'habitacle va être la plus insonorisée de l'industrie automobile.
OK. Regardez-moi, j'ai un 2017. Dernière question pour vous, en fait. Moi, ça fait plusieurs que j'ai. Là, cette année, j'ai un 2017. Puis là, j'ai un problème avec la suspension. C'est que, en fait, quand je veux dépiner mes remorques, vu qu'il est pesant sur la pôle, le véhicule suit. Quand on crinque le trailer,
ouais.
Le véhicule suit.
Il monte.
Ça finit qu'il monte puis tu peux plus.
Ouais. Faut que tu sautes sur le pare-choc pour le débarquer.
Même pas. C'est impossible. Puis là, c'est ma méthode, c'est que je suis obligé de prendre un jack pour relever le trailer puis sortir de là.
Ouais, c'est pas terrible.
Parce que même
avez-vous la suspension en correcteur d'assiette? Vous avez la suspension à l'air dessus ou non?
Oui, la suspension à l'air dessus sur le... Oui.
Bien là, il y a une deuxième génération de suspension à l'air. Donc, j'espère que ça va faire un meilleur travail de ce côté-là. Et il faut dire que le camion est totalement nouveau.
OK, parce que je sais pas si vous en aviez déjà entendu parler, mais on me disait que... Parce que ça fait une couple de fois que je le rentre, parce que là, vous comprendrez que je travaille avec ça, c'est pas drôle. Là, ouais. Le bug est que quand il y a plus que 500 livres sur la pôle, ça fait ça, il vient comme déréglé. Puis là, même par les pitons, il n'y a plus rien, on peut plus le baisser. Même qu'un coup qui est dépiné, qui est tout seul, je ferme le véhicule, je roule le véhicule, puis il rebaisse même plus. Là.
Ça, c'est que c'est trop lourd, le système n'est pas capable de le supporter. Ça, c'est un peu un problème. Mais comme ils ont amélioré la charge utile du véhicule à 2300 livres, 12 000 quelques livres de remorquage, 12 700 livres exactement de remorquage de capacité, je pense que le problème devrait être réglé avec cette nouvelle génération.
Ça répond à votre question, Stéphane?
Merci.
Oui, merci beaucoup.
Merci, bonne journée. Mario est au 670-9330. Bonjour, Mario.
Bonjour.
Votre question? Oh, Mario, es-tu
Mario est parti. Il y a d'autres véhicules. Si les gens veulent avoir d'informations, Ford a lancé le Ford Ranger, donc la nouvelle génération de camionnettes. On avait déjà un Ranger du côté de chez Ford qui roulait en Australie sur d'autres pays. Là, on va arriver avec ce véhicule-là. On a annoncé seulement le 2,3 litres comme motorisation pour l'instant. Il y a aussi le Veloster chez Hyundai, une nouvelle génération de Veloster qui est très beau, très réussi. Toyota nous a présenté la nouvelle Avalon 2019, la plus Lexus des Toyota, tellement on a fait un travail puis qu'on a monté au niveau du luxe. C'est-à-dire, si vous voulez avoir une voiture luxueuse, mais pas avoir une marque luxueuse, faut aller chercher la Avalon. Puis la console centrale, de la façon qu'on a dessiné la console centrale, j'ai jamais été un maniaque d'Avalon, là. C'était n'importe quoi, c'était une voiture anonyme. Mais là, à l'intérieur, de la façon qu'on a dessiné la console centrale qui se prolonge dans le tableau de bord, je pense que les manufacturiers devraient s'inspirer de cet Avalon pour ce qui est du design intérieur. L'extérieur est plus agressif aussi. Donc, on veut rajeunir, j'imagine, les gens qui achètent cette voiture-là. Lexus FT1, on présentait un concept. Il n'y en a pas eu beaucoup de concepts, mais celui-là, il est de toute beauté. Si on regarde le design avant, arrière également, les phares arrière ou les feux arrière sont sortis littéralement de la carrosserie. Okay. C'est éclaté, c'est le fun, c'est beau. Si Lexus s'inspire un petit peu de ce concept-là pour les prochaines générations, ils sont en business, on peut dire. Et élément de sécurité intéressant, écoute, Paul-Raphaël, d'habitude, tu as les miroirs. Tu regardes les miroirs, tu regardes à travers la vitre. Sauf que là, on a placé des caméras qui font guise de miroir. Et les deux miroirs sont chaque côté du bloc instrument à l'intérieur du véhicule. Hein? Donc, tu n'as plus à te tasser les yeux.
Ben non, c'est
ça. Tu vois très, très bien à l'arrière. Je me suis assis dans le véhicule pour regarder de quelle façon que ça fonctionne. Et
ça
si ça peut arriver un jour sur la route, je comprends que nous ici, les caméras peuvent s'obstruer et tout ça, mais il reste que l'idée est vraiment très bonne au niveau sécurité. Et avec le système de visualisation tête haute, t'as pas à quitter la tête ou à bouger la tête, tu restes là et t'as toutes tes informations. J'ai trouvé ça vraiment le fort.
Daniel, es-tu capable de répondre à la question de Yves en une minute?
Oui.
Bonjour Yves.
Bonjour.
OK, allez-y avec votre question.
Alors, j'aimerais avoir de l'information concernant la nouvelle Honda Clarity.
Oui. J'ai essayé la Clarity version hydrogène. On a sorti la nouvelle Clarity qui va arriver. Il faut dire qu'à Los Angeles, elle a gagné la voiture verte de l'année. Alors, c'est très prometteur. On va l'avoir en version hybride. Donc, c'est un genre de système pareil à la Chevrolet Volt qui va avoir à peu près 85 km d'autonomie. On va avoir aussi une version hybride traditionnelle.
Dans le corps d'un Civic, finalement. Si je regarde les photos, ça ressemble à
non,
Civic,
c'est un peu plus vers la Honda Accord. Donc, beaucoup d'espace, ça va bien, c'est bien dessiné. La voiture est solide, moi, j'ai aucun problème. C'est l'alternative et ça va être extrêmement économique. Moins de 5 litres ou 100 km pour ce qui est de la version hybride ou encore de la version branchable. Je pense que c'est un bon, c'est une bonne avenue pour Honda, cette nouvelle Clarity. Et faut dire que ça va bien chez Honda parce qu'on a gagné aussi la voiture de l'année. Parce qu'à l'ouverture du salon de Détroit, on annonce les voitures de l'année. Ça a été la Honda Accord. Mais la Clarity, c'est vraiment une voiture à considérer si vous voulez aller dans l'hybride ou encore dans le branchable. Ça va être un bon choix. Ils vont arriver très bientôt si ce n'est pas déjà fait. Et ils ont annoncé aussi, Honda, à Détroit, l'arrivée de la Insight. Donc, on a présenté le prototype de l'Insight qui, elle, se trouve à être une voiture hybride, mais plus du type Civic. Donc, la Clarity, plus d'espace, plus vers l'accord, et la Insight, plus vers la Civic. La Insight, là, c'est une Civic hybride, mais on l'appelle un autre nom. On va changer un peu le style. Alors, oui, vous pouvez acheter ce véhicule-là sans problème.
Ça marche, Yves?
Merci.
Merci à vous. Bonne journée. Es-tu capable, en 30 secondes, Dan, de répondre à ça?
Oui.
Si tu as de l'information au sujet du nouveau Hyundai Santa Cruz, dans quelle catégorie va se situer son prix? Disponible à quelle date? Sais-tu ça?
Quand je me suis présenté à la présentation de Hyundai, je m'attendais à voir le dévoilement du Santa Cruz parce que c'est un salon entre guillemets camion là.
Ouais.
Mais non, on a présenté le Veloster, pas encore de Santa Cruz. Alors moi, je vais vous dire, ça va être un camion intermédiaire là, dans le type ça va être plus vers un sport utilitaire camion qu'un camion là.
Je regarde des photos sur internet, pis c'est bizarre là. On dirait vraiment un mélange.
C'est pas un Eldorado. Viens pas parler que c'est un Eldorado. Là, c'est loin de ça. Il y a quelques petites affaires intéressantes, comme on peut allonger la boîte à l'arrière en tirant sur le haillon. Mais on l'a pas présenté officiellement, alors je peux pas vous en donner davantage. Mais c'est un sport utilitaire avec une boîte.
Daniel, faut qu'on s'arrête. Je te remercie beaucoup. On met ça la semaine.